Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Pour vivre heureux, vivons cachés, dit un vieil adage français. Difficile de l'entendre quand on voit combien l'actualité fait état de l'obligation et pour beaucoup du goût de la transparence que celle-ci touche vie privée, patrimoine, compte bancaire ou encore santé. Sommes-nous si loin que ça de Brick Brother, ce personnage de fiction de roman intitulé 1984 de George Orwell, dont l'affiche montre un homme menaçant disant « je vous regarde ». Inversement, hier et encore aujourd'hui, il y a des choses tues, des secrets qui peuvent obérer lourdement l'avenir, la vie d'un individu, d'une famille. Se taire serait-il nocif ? Alors que penser ? Voici un ouvrage qui vient à point nommé alors que la campagne anti-harcèlement bat son plein pour nous aider à voir plus clair. Ouvrage de réflexion étayé d'observations, d'expériences, de cas, puisqu'il est écrit par Laurent Schmitt, médecin psychiatre, chef du service de psychiatrie et psychologie médicale du CHU de Toulouse et professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de Rangueil à Toulouse. Cet ouvrage est intitulé « Le secret » et il est édité par Odile Jacob. Laurent Schmitt, bonjour.
Bonjour Monique Fauché, merci pour votre invitation.
Alors, les secrets sont amplement utilisés, on le sait, en littérature comme au cinéma. Et vous-même, d'ailleurs, vous citez quelques exemples en littérature. Bon, rien ne s'oppose à la nuit, le dernier livre. Un récent livre de Delphine Le Vigan, évidemment. L'île des oubliés de Victoria Hislop. Le 13e conte de Diane Sutherland. Et puis, elle s'appelait Sarah de Tatiana de René. Enfin, vous connaissez certainement d'autres livres encore et plus anciens. Et puis, les films. Alors là, les films, je ne sais pas si vous êtes cinéphile, mais Volver d'Almodovar, magnifique.
Oui. Alors, il y a les œuvres, oui, mais il y a aussi les auteurs, si vous me permettez. Et rappelez-vous qu'un certain nombre d'auteurs se sont cachés ou derrière des pseudonymes, ou plus compliqué, derrière ce qu'on a appelé des hétéronymes, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé, tel Romain Gary, oui, plusieurs pseudonymes. Et l'exemple le plus connu est celui de Fernando Pessoa, qui avait 3 ou 4 pseudonymes, chacun écrivant pour son propre compte.
Alors, je vais vous avouer, vous dites plus connu, moi, je l'ignorais totalement, et vous m'avez appris cela, parce que Romain Gary, il a quand même fait fort parce qu'il a eu 2 fois le prix Goncourt.
Et chaque fois sous un autre nom.
Oui, chaque fois sous un autre nom, voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'un secret, Laurent Schmitt ?
Il y a différentes formes de secrets. Il y a des secrets. Déjà, nous-mêmes, vous et moi, madame, nous avons des choses biologiques secrètes en nous. Notre code génétique, même si on commence à l'approcher, il est secret.
Je dois vous dire que je m'y intéresse très peu, là, en ce moment.
Nos déterminismes de vie ou de maladie commencent à être décryptés, mais sont encore secrets. Et par exemple, qu'est-ce qui nous donne accès à nos rêves et qu'est-ce qui ne nous donne pas accès à nos rêves, ça reste secret. Donc, il y a des secrets internes, biologiques, constitutifs. Mmh. Il y a des secrets de notre enfance. Il y a les secrets que nous n'avons jamais dit à personne et que sans doute nous emporterons dans notre tombe. Il y a des secrets dans nos actions. Les secrets, c'est... il y a d'innombrables travestissements du secret et d'innombrables secrets.
Oui. Alors, parlant d'autrefois, il y avait beaucoup plus peut-être de choses cachées. Moi, je pense à ces filles qui étaient violées dans les campagnes ou dans les familles bourgeoises, les incestes, l'homosexualité, tout cela, c'était vraiment... Vous allez me dire que ça existe encore dans bien des pays. Hein. Par voie de conséquence, il y avait les délations, il y avait le corbeau, il y avait durant la terreur, durant la guerre, il y avait tout cela. Aujourd'hui, tout se sait, ou presque, on croit.
Alors... La délation a toujours existé. Les premiers chrétiens ont été invités par les non-chrétiens, si je puis dire, à faire l'objet d'une délation. On est à 112 après Jésus-Christ et Pline invite à trahir et à dire qui a adopté la religion chrétienne. Oui. Je vous rappelle que l'Inquisition a aussi procédé de ce type, et que pour une période plus récente, qui est la terreur, eh bien, le citoyen était non seulement invité, mais vraiment poussé à la délation. Et après, je saute à pieds joints sur les lettres anonymes, les corbeaux,
affreuse,
et tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale.
Exactement, oui. Alors, on sait ça. En préparant mes questions, je me suis dit, mais finalement, il y a aussi des injonctions contradictoires. À l'enfant, on dit « ne ment pas », mais on lui dit aussi « ne rapporte pas », et encore plus « ne dénonce pas ». Alors là, il y a quand même, il faut faire entrer des notions morales, de valeurs.
Vous avez tout à fait raison. L'éducation des enfants met souvent l'accent sur toute une série de valeurs, qui sont généralement de l'ordre de la transparence et de l'honnêteté. Et en même temps, il y a bien des familles où il y a une toute petite musique sous-jacente qui dit « certes, il faut être honnête, mais on ne peut pas tout dire », ou « il ne faut pas exposer les richesses de la famille », ou « on ne doit pas parler de politique ou d'argent avec les petits camarades ». Donc il y a, comme vous le dites très bien, des injonctions contradictoires. Et en fait, le développement de l'intelligence va être de mettre un peu de nuance dans tous ces éléments et de savoir, dans les circonstances, ce que l'on peut dire et ce qu'il vaut mieux ne pas dire.
Il y a une question de jugement.
Exactement.
Alors, il y a, selon vous, des tempéraments et des aptitudes au secret. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Eh bien, vous connaissez, et les auditeurs sans doute également, des gens qui sont, entre guillemets, taiseux, qui n'ont pas tendance à parler, qui n'ont pas tendance à exprimer ou à libérer leurs émotions. C'est une première catégorie. Et puis, il y a des gens qui ont, on pourrait dire, un esprit machiavélique, florentin, il y a différentes expressions.
Manipulateurs,
qui, eux aussi, sont dans le secret et de leurs actions et surtout de leurs intentions.
Voilà. Alors, on sait quand même que, bon, il y a des grands et des petits secrets, bien sûr. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire ? Certainement pas.
Votre réponse, qui est une réponse à l'évidence de mon sens, c'est-à-dire que non seulement toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais des fois, il y a une temporalité pour dire un certain nombre de vérités. En d'autres termes, il y a des questions qui ne peuvent pas être traitées de but en blanc et qui nécessitent quelques étapes avant une révélation de la vérité.
On le voit déjà en politique.
On le voit en politique, on le voit dans certains secrets de famille, et on le voit maintenant dans ce que vous avez à juste titre évoqué, c'est-à-dire toutes ces questions du harcèlement, où on sent que plusieurs personnes, avant, j'allais dire, de révéler des vérités dures à dire, ont eu besoin de quelques étapes et d'une facilitation des choses. Et heureusement qu'elle a eu lieu.
Alors, justement, sans doute que ça entre dans des secrets qui, à un moment donné, ont été nécessaires, parce qu'il y a des secrets nécessaires.
Alors, le premier secret nécessaire, c'est le secret qui permet à nos enfants d'être un peu autonomes de leurs parents.
Ah oui, alors là, vous franchissez, dans votre ouvrage, vous en parlez, mais vous franchissez des étapes. Oui, il ne faut pas qu'ils soient harcelés, toujours.
Non seulement pas harcelés, mais il faut que les parents soient susceptibles d'accorder à leurs enfants un espace de liberté qui doit être, comme vous le pensez, un peu calculé, mais qui permette aux enfants d'avoir des secrets. Les secrets sont nécessaires. Nous construisons notre personnalité sur ce que nous disons, mais aussi sur ce que nous cachons un petit peu.
Oui, en particulier les histoires d'amour quand on est adolescent, par exemple. Ben voilà, la plupart du temps, on n'en parle pas aux parents.
Eh bien, il manquerait plus que ça, j'allais dire.
Bon, en même temps, ça protège les parents.
Mais si un adolescent commençait à raconter à ses parents tout ce qu'il fait, dans les soirées, dans les histoires d'amour, eh bien, il ne serait pas adolescent.
Oui, évidemment. Alors, les secrets nécessaires, évidemment, on pense à certains secrets d'État, mais même ceux-là sont actuellement remis en question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
On ne peut pas faire de politique de haut niveau sans qu'il y ait des secrets. Et non seulement des secrets, mais des secrets importants. Le rôle de la diplomatie, par définition, c'est de laisser certaines zones aux mains ou de diplomates ou d'hommes d'État qui avancent sur des terrains minés, qui essaient de faire ou des rencontres ou des échanges là où on pense que les échanges sont impossibles et qui permettent des fois de jeter des ponts et de construire des traités de paix ou des alliances. Si ceci était au grand jour, ça rendrait la vie strictement impossible.
Oui, alors donc les lanceurs d'alerte, vous pensez, on en reparlera sans doute tout à l'heure, mais vous pensez qu'ils n'ont pas fait que du bien.
Alors, il faut bien distinguer une sorte de morale individuelle d'une morale politique. Et je crois que quand les lanceurs d'alerte mettent l'accent soit sur des fraudes fiscales, soit sur des anomalies de certains industriels, soit sur des phénomènes de pollution, soit sur des phénomènes de toxicité alimentaire, eh bien, ils sont dans un rôle utile. Lorsqu'ils dévoilent la vie privée, eh bien là, c'est là où je dis qu'il y a une distinction entre une morale publique et une morale privée, ça, c'est beaucoup plus contestable.
Bien sûr. Il y a également, il y a toutes sortes de secrets. Il y a le secret de l'instruction, le secret médical, c'est pas à vous que je vais en parler. Le secret de la confession, vous en parlez également dans votre... C'est le respect. En fait, ça signifie le respect de la personne.
Alors, il y a des secrets absolus. Mais le secret de la confession, par exemple, qui est un sujet tout à fait passionnant, n'est venu dans l'histoire religieuse qu'un peu tardivement. D'une part.
Oui, les confessions se faisaient en public.
Alors, d'une part, elles sont venues assez tardivement. Et ensuite...
Il y avait l'absolution, vous en parlez.
Alors, mais je dis surtout que la valeur des péchés était éminemment variable. Je ne sais plus où j'ai trouvé que si on pouvait tuer son épouse si on l'avait surprise en pleine infidélité et que là, ça n'était pas un péché.
Je suis avec vous d'accord, c'est très mal. Mais comme vous disiez tout à l'heure, il faut le remettre dans le contexte.
Voilà, c'est l'élasticité qui est intéressante.
Bien sûr, bien sûr. Je pensais aussi qu'il y a des gens qui vivent dans le secret obligatoirement, qui jouent un rôle par nécessité. Alors, évidemment, on va penser aux agents de renseignement. Et bien sûr, bon, là, c'est pas compliqué. Pour les médecins, je pense à vous, justement, ça peut être parfois difficile.
Vous savez, le secret médical et son alter ego, qui est dire toute la vérité au patient, sont des choses qu'il faut un peu peser ou trancher. Et je vais prendre deux exemples. Dire à quelqu'un, comme ça, de but en blanc, comme cela peut se faire dans les pays anglo-saxons, vous avez... un cancer, il y a des métastases, il est incurable, c'est littéralement perforer le psychisme, mais comme avec
un vil
brequin, et ne donner aucun espoir, alors même que souvent, il y a des possibilités intermédiaires d'allongement de l'existence. Ça, c'est un premier exemple. Deuxièmement, lorsque dans les familles, il y a des gens qui savent, d'autres qui ne sont pas au courant. Il s'instaure tout un jeu de relations extrêmement compliquées et il faut savoir à qui on donne la vérité, à qui on la donne partiellement, à qui on ne la donne pas du tout. Et ça demande, passez-moi l'expression, un peu de jugeote.
Oui, oui, et ce n'est pas aisé.
Tout à fait.
Oui. Quand je parlais de gens qui, par leur métier, doivent parfois jouer un rôle... D'où la difficulté, je pense, du médecin qui ne peut pas dire forcément affectivement à quelqu'un, mais non, c'est terminé, il n'y a plus d'espoir. Il y a des paroles qui jouent, des personnes qui jouent un rôle, pas par nécessité, mais qui jouent un rôle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Vous voulez dire
qui ne sont pas dans le naturel.
Écoutez, il y a beaucoup de personnes qui jouent des rôles dans la société. Il y a même une expression qui dit « ou fendre l'armure » ou il y a des expressions qui laissent entendre que des fois il faut dire ou ne pas dire. Une expérience professionnelle me dit que c'est beaucoup plus compliqué de jouer des rôles, de se mettre dans des postures et d'adopter des déguisements que finalement d'être un peu soi-même.
Vous croyez ça ?
Écoutez, il y a eu plusieurs exemples, y compris dans les faits divers, de gens qui ont eu des existences secrètes, qui ont dit par exemple qu'ils avaient telle ou telle fonction, qu'ils n'avaient pas. Ou bien...
Vous pensez par exemple à l'affaire Roman.
Exactement. Ou bien des gens qui se présentent sous des certaines apparences et on se rend compte que leur réalité est très différente. La posture a toujours existé, mais c'est quand même une situation compliquée.
Et ils sont soulagés quand ils sont percés à jour, si j'ose dire, c'est, le terme est un peu dur, mais pour l'affaire Roman, on s'est posé la question.
Écoutez, c'est un drame d'être percé à jour, voire même quelque chose qui peut les pousser au suicide. Pour d'autres, c'est effectivement une forme de soulagement. L'exemple que je donne dans mon livre, par exemple, c'est M. Madoff,
un des
plus grands escrocs qui ait existé, qui a ruiné des fondations religieuses, des universités, des entreprises caritatives.
Mais vous disiez aussi qu'en fait, il aidait, il donnait de l'argent à beaucoup d'œuvres charitables.
Eh bien, nous sommes dans la question que vous m'avez posée, c'est-à-dire une posture d'un philanthrope aimant aider... faisant du bien autour de lui, qui en réalité a plongé des dizaines de milliers ou de personnes ou de personnes morales dans la ruine et dans le dépôt de bilan. Donc voilà une posture.
Voilà une posture. J'ai entendu dire qu'en prison, il a recréé un cercle amical ou je ne sais pas, et que finalement il a une certaine aura.
Écoutez,
c'est un personnage. Hein.
Il a sûrement d'énormes capacités, suffisantes pour que des bourses entières et des dizaines de milliers de personnes, y compris qui avaient les pieds sur terre, lui aient
fait confiance. Alors, les secrets qui font mal, qui sont néfastes, qui sont dangereux ou même handicapants, c'est des secrets qui sont là pour différentes raisons.
Alors, vous savez, ceux-là sont extrêmement connus. Les secrets de filiation. Les secrets de famille, les secrets dont on a parlé il y a quelques secondes sur des attouchements ou des sévices sexuels ou des formes de harcèlement, tous des secrets qui concernent des actes qu'on a pu faire à un moment pendant la guerre ou concernant des actions financières, voilà, c'est des secrets qui sont souvent douloureux pour les gens.
Douloureux parce qu'ils ont honte.
Ils ont honte. Ils se sentent coupables. Dans certains cas, les deux se mélangent. Des fois, ils ont été obligés, par une autorité quelconque, de faire certaines choses. Vous pensez comme moi à la torture lors de la guerre, tout en se le reprochant amèrement.
Oui. La peur, des représailles. Mais il y a également, on le voit maintenant dans les bandes de jeunes qui sont à la marge, mais on peut le trouver ailleurs aussi, le désir de ne pas, excusez-moi de l'expression, cafeter, par exemple.
Alors, bon, ça, c'est pas actuel.
Non, c'est pas actuel.
Toutes les générations, le délateur, le rapporteur, le cafeteur n'est pas bien vu.
Oui.
Mais peut-être que votre question fait allusion à des travaux de psychologie de l'enfant et des adolescents qui ont été menés et qui montrent qu'à partir de 8-9 ans, s'instaure une sorte de solidarité générationnelle entre jeunes de même âge pour ne pas cacher
les choses. Même au sein des familles.
Même au sein des familles, c'est-à-dire il y a l'union des jeunes de façon solidaire pour faire un groupe homogène. Les tout-petits rapportent aux parents et à partir de 8-9 ans, il y a une solidarité de groupe d'ados ou de pré-ados.
Une omerta.
Voilà, une sorte d'omerta, mais qui leur donne une place d'individu respecté dans le groupe.
Ouais.
Et au-delà, après, ça ne va que croissant.
Alors, évidemment, il y a se dissimuler pour mal agir. On pense aux terroristes, ils ne font pas ça au grand jour, ils ne préparent pas au grand jour. Aux harceleurs, on en parle en ce moment beaucoup. Et c'est assez, ça paraît énorme maintenant, tout ce qui se dit, tout ce que l'on apprend.
Alors, c'est là où je disais, il y a une différence entre une morale privée, une morale publique, mais il est très clair qu'il y a eu, vous avez utilisé le terme d'omerta, mais un poids énorme qui a eu lieu sur le siècle dernier pour, dans le fond, ne cacher, ne pas dire et ne rien révéler d'honteux. Les conséquences de ce poids ont été des fissures dans le psychisme des gens terribles, des souffrances abominables, et c'est une très bonne chose qu'il y ait une liberté de parole sur ces souffrances qui ont été endurées. Il ne faut pas oublier que beaucoup de ces personnes, on leur a longtemps laissé planer l'idée qu'elles étaient en partie responsables. Que si elles parlaient, c'était que dans le fond, elles avaient bien voulu ou elles avaient fait un certain nombre de choses qui favorisaient ça. C'est abominable.
Bien sûr, bien sûr. En même temps, une idée là qui me vient, en même temps, ça peut être dangereux parce que si on a un compte à régler avec quelqu'un, on va pouvoir l'accuser. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais comme on n'a jamais, les femmes n'ont jamais de preuves flagrantes, c'est jamais fait au grand jour cette histoire de harcèlement. Alors,
eh bien, écoutez, vous utilisez un des arguments que souvent les harceleurs utilisent, c'est-à-dire en disant...
Croyez bien que je défends la cause des femmes, pourtant.
Je n'en doute pas une seconde. La machine à mensonges, je cite quelqu'un dont j'ai entendu les propos très récemment, est lancée. Mais il vaut mieux que là, la vérité et la justice puissent faire leur travail.
Oui.
Sans état d'âme.
Oui. Alors, en ce qui concerne les secrets, il y a parfois une sorte de pudeur, de timidité qui bloque en amour. Alors, je pensais à ce sonnet qui est célèbre, pas son auteur d'ailleurs, Félix Davert, « Mon âme a son secret, ma vie a son mystère ». Et c'était, il était amoureux, cachant son amour, et il y avait un pastiche, j'avais trouvé ça très drôle, qui répondait, une manière de pastiche, « Ami, pourquoi nous dire avec tant de mystère que l'amour éternel en votre âme conçue est un mal sans espoir, un secret qu'il faut taire ?» Et oui, il y en a qui arrivent à taire des choses qui sont importantes pour leur vie.
Et oui, et donc ça, c'est un des aspects délétères des secrets, c'est-à-dire ne pas oser dire, cacher. Ça correspond aussi à un état d'esprit d'autrefois, où les différences, ou de génération, de milieu social, ou de race, ou de religion, faisaient qu'on ne pouvait pas exprimer un certain nombre de choses qu'on pouvait ressentir. Oui. Et là, cette liberté qui s'est installée, elle est quand même positive.
En début d'émission, nous parlions des secrets de famille. Et alors là, on sait que ça alimente fortement les romans, les films. Tout à l'heure, je parlais d'Almodovar parce que son film était excellent. Mais j'avais vu également de Claude Miller, Un secret. Et sans doute, avez-vous vu ou entendu parler de Festen de Thomas Vinterberg, c'est dans des pays anglo-saxons et c'est un repas où tout d'un coup les choses sont dites. C'est très, très violent, mais sans doute qu'il faut le faire. Les secrets de famille, ça traverse les générations.
Oui, les secrets de famille, ils ont deux caractéristiques. Souvent, comme vous le dites, ils sont intergénérationnels et surtout, ils diffusent, ils suintent. C'est-à-dire que dans la famille, même si on ne sait pas la nature exacte du secret, on sent confusément qu'il y a quelque chose qui est caché. Et ça, c'est très délétère. En d'autres termes...
Destructeur.
L'enfant perçoit, parce que les parents changent de sujet, parce qu'on s'arrête de parler, parce que soudain, j'ai vu ça dans des familles, on commence à parler dans une autre langue, on exprime certaines choses en anglais alors qu'il n'y a aucune raison... qu'il y a quelque chose qui est insolite. Il ne sait pas toujours ce qui est insolite, mais il comprend qu'on cache des choses. Et comme vous l'évoquiez, dans des familles où on prône l'honnêteté, le fait de dire les choses, de sentir ses secrets, c'est très délétère.
Oui. Alors, est-ce qu'on peut se débarrasser de ces secrets-là?
Eh bien, ça dépend...
Encore faut-il les connaître.
Alors, premièrement, il faut les connaître. Deuxièmement... Il ne faut pas être l'objet d'injonctions des fois extrêmement difficiles, qui est de ne pas parler.
Oui, on ne parle pas de ces choses-là.
Voilà, on n'en parle pas, voire même on interdit d'en parler. Et enfin, tout le monde n'a pas la même capacité pour dire et pour réfléchir autour du secret. En d'autres termes, il y en a pour qui c'est littéralement une force interne qui dit « mais il faut en parler », et d'autres qui se disent « mais est-ce que d'en parler ne sera pas pire que de le taire ? Est-ce que les conséquences ne seront pas plus désagréables que le mal lui-même ?» et qui sont dans une réflexion telle qu'ils sont paralysés.
Et selon vous, professeur Schmitt, justement, est-ce que d'en parler peut enlever ou alléger le poids ?
Alors là, j'ai une réponse très simple, mais qui remonte à l'époque des Grecs. Le terme de catharsis veut dire littéralement l'expression des émotions par ce qui est dit et ce qui est à l'origine. C'est un terme qui entourait le théâtre tragique grec. Eh bien, d'exprimer les choses à bon escient, pas n'importe quand, à n'importe quel moment, c'est toujours utile. En d'autres termes, ça allège, ça permet de réfléchir et, d'une certaine façon, ça empêche ce qu'on peut assimilé à un poison interne violent, de faire son œuvre.
D'accord. Vous dites que parfois, les faits remontent loin et qu'ils ne sont même pas accessibles, comme ça, dans une conversation. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Un état d'hypnose ? Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Alors, il y a d'abord des faits qui concernent la génération d'avant,
oui,
et qu'on ne connaît qu'en partie ou que confusément. Des fois, on sait tout, mais des fois, on sait qu'il s'est passé quelque chose. Une infidélité, un enfant naturel, que sais-je. Ensuite, il y a un mécanisme de défense que nous portons, chacun d'entre nous, qui s'appelle le refoulement, qui fait que, d'une certaine façon...
On ne veut pas savoir.
On met sous le couvercle de la cocotte minute des choses particulièrement désagréables, comme si on décidait de les enterrer dans la bassine, dans le jardin. Mais ces choses continuent à agir dans notre psychisme, même enterrées. Elles peuvent s'exprimer par des rêves, par des actes manqués, et puis tout simplement des fois par des émotions à certains moments dont l'intensité surprend. Eh bien, ça, il vaut mieux en parler.
Et défait prendre conscience. Les chevaux, peut-être, il suffit de prendre un fil et de tirer.
Alors, si c'était, comment dire, s'il suffisait de prendre un fil et de tirer,
oui,
ça voudrait dire que la bobine est bien rangée. Et
oui,
que, comment dire,
oui,
et
oui,
qu'en tirant, le fil vient,
oui,
naturellement.
C'est pas si simple.
Malheureusement, la bobine, elle n'est pas si bien rangée, ouais, que ça. On peut tirer un fil et en fait, c'est un autre fil qui est problématique, d'une part. Et d'autre part, très souvent, il y a ou d'autres souvenirs qui viennent un peu parasiter. Donc, on ne tire pas un fil comme on déferait une pelote. On tire un fil en sachant que souvent, il y a des accros dans le fil, il y a du raccommodage. Mais le rôle du psychologue ou du psychiatre, c'est d'essayer de reconstruire une histoire. Et ça, c'est important.
Alors, vous dites dans votre ouvrage, vous dites qu'il y a parfois des histoires qui remontent à plusieurs générations. Alors là, que faire ?
Eh bien...
Et vous, pardon, d'abord, oui, est-ce que vraiment ça influe sur tant de générations ?
Bien, vous savez, c'est assez simple ça par contre. Si on a la notion, si dans une famille on sait qu'un grand-père ou une grand-mère a commis des actes abominables, imaginons que le grand-père ait tué la grand-mère, ça retentit déjà sur les enfants qui en sont profondément touchés. Mais après, ça retentit aussi assez souvent sur les petits-enfants, soit parce que ça va rester silencieux, personne n'osera parler d'une telle chose, dans ce qu'elle a de traumatique et de douloureux, soit parce qu'on comprendra bien qu'il s'est passé un acte dans cette famille qui était impensable.
C'est-à-dire que ça passe par le comportement de chacun, la manière d'être, de penser, de parler.
De réagir dans certaines circonstances, de taire certaines choses, d'avoir des émotions dont l'intensité paraît plus importante que ne le voudraient les faits. Et c'est comme ça que toute une série de petits éléments, j'allais dire, agissent sur un enfant. Il y a eu des expériences ou des études qui ont été menées, par exemple, auprès d'enfants israéliens, pour se rendre compte qu'ils rêvaient de phénomènes qui se déroulaient dans des camps de concentration, qui concernaient leurs grands-parents.
Oui.
Donc il y a bien une transmission de toute une série de choses qui sont de l'ordre de la crainte, de l'inquiétude, de l'horreur, et que les personnes n'ont pas vécu. Des fois, elles n'ont même pas connu leurs grands-parents.
Et oui. Et est-ce que le fait de ne pas l'avoir vécu fait que ces personnes amplifient encore le secret ?
C'est très difficile à dire. Je pense qu'il y a beaucoup de variations interindividuelles. Mais en tout cas, plus c'est mystérieux, plus ça crée de l'étonnement, des questionnements et éventuellement de l'anxiété.
Mais dans ce cas, professeur Schmitt, obligatoirement, ces personnes ont besoin d'aide. Elles ne peuvent pas seules arriver. Je ne vais pas reprendre l'image de les chevaux parce que je sais qu'elle n'est pas bonne. Mais elles ne peuvent pas arriver à déceler où est le mal.
Alors, il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, endurent sans dire un mot et avec une sorte de résilience assez extraordinaire, des choses très, très dures, très difficiles, sans jamais demander de l'aide, de peur que, selon l'expression populaire, d'en parler sera pire que de ne rien dire. Mmh. Eh bien, okay. Celles-là, elles restent avec leurs difficultés assez longuement. Mmh. Et des fois, il vaut mieux, comment dire, progressivement, et c'est un travail un peu construit, hein, c'est pas un dialogue au coin du feu, si je puis dire, essayer de reprendre qu'est-ce qui est douloureux, pourquoi, comment ça se manifeste, dans quelles circonstances.
D'accord. Est-ce que... j'aimerais savoir, moi, si quand le problème est mis à jour et résolu, pas résolu, c'est pas le terme, mais est-ce que quand le secret est dévoilé, est-ce que tout peut se régler bien ?
Vous connaissez un peu la réponse, c'est-à-dire que tout ne va pas pouvoir se régler bien, parce que des fois, la mise à jour d'un secret a des conséquences majeures. Imaginez une famille où, par exemple, un inceste est mis à jour, alors que la famille paraît assez solide, avec des liens affectueux. Donc on comprend que la révélation du secret va être comme une bombe à fragmentation.
Tout le château s'effondre.
Le château va s'effondrer, il va y avoir des suspicions, des hostilités. Mais, à l'inverse, ne rien dire, garder tout ceci sous le boisseau, entraîne pour la personne qui a été victime le sentiment d'une injustice humaine extraordinaire, c'est-à-dire d'être double ou triplement victime. Victime des faits, victime de l'omerta, et d'une certaine manière, victime d'une pression familiale qui lui dit « ne dis rien pour ne pas faire éclater la famille, et si tu dis quelque chose, tu auras la responsabilité. »
Oui, et ce sentiment d'être abandonné.
Tout à fait.
Vous dites cependant que dans bien des cas, le secret est nécessaire.
Oui. Il y a des secrets, j'allais dire, on a parlé de l'adolescence tout à l'heure, il y a des secrets qui sont des zones de sauvegarde, comment dire, des zones intimes qui, d'une certaine manière, font que nous avons une zone qui nous appartient, qui n'est pas dévoilée à tout le monde, qui, d'une certaine manière, fait notre originalité et notre vie personnelle. Et ça, c'est très, très important. Alors, je donne deux ou trois exemples, mais c'est des exemples que tout le monde connaît. Par exemple, on sait que Nelson Mandela a été incarcéré en tant qu'opposant politique dans une île, Robben Island, et qu'il avait des conditions de détention dures. Et qu'il se récitait en permanence des poèmes, dont un de Henley qui s'appelle Invictus. C'était son secret, personne n'était au courant de cela. Et ça, ça lui assurait, je ne sais pas comment disent les enfants quand ils sont perchés, vous savez, quand on joue et qu'on est à un moment dans un endroit.
Chat perché.
Voilà, et qu'on est protégé parce qu'on est dans ce lieu. Et là, c'est un lieu interne qui vous protège. Bon, d'autres exemples sont connus, le journal Anne Frank, qui dans sa... comment dire, claustration, pré-déportation, a écrit son journal, qui était sa manière de se libérer.
Oui, et son ami.
Voilà, d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir la porte, et d'une certaine manière, de raconter ce qu'il y avait en elle. Et il y a d'innombrables exemples.
Oui.
Donc ça, c'est les secrets qui nous protègent.
Oui. Oui. Vous dites que le secret est essentiel à l'amour. Alors, si vous permettez, j'aimerais que vous lisiez un passage de votre ouvrage. Je ne sais pas si vous avez le livre à la page 168. Et vous dites « Le secret, facteur de longévité des couples ».
Il y a sans doute plusieurs composantes, mais deux paraissent évidentes, le respect et la tendresse. Pour le respect, on connaît la définition de l'amour du célèbre poète Rainer Maria Rilke. L'amour consiste en ceci, que deux solitudes se protègent les unes les autres, se touchent et se saluent. Cette citation illustre à la perfection la nécessaire coexistence de deux intimités. Et cette question, c'est le fait que l'amour ne s'associe... Alors là, je ne lis plus. Hein, que l'amour ne s'associe pas obligatoirement à la connaissance permanente de ce que fait l'autre à tout moment. Où es-tu? Que fais-tu? Réponds-moi. Je t'ai déjà envoyé deux SMS, tu ne m'as pas répondu. Comment ça se fait? Non.
C'est du harcèlement.
Non, c'est peut-être pas du harcèlement, mais c'est une espèce de fusion qui n'est pas forcément toujours utile. Et puis la tendresse, et là je relis, la tendresse exprime un autre secret de la longévité des couples. Lorsque l'amour-passion, l'amour charnel, l'amour parental, lorsque toutes ces formes ont brûlé leurs feux initiaux, soit les sentiments s'éteignent, soit ils sont remplacés par la tendresse.
Voilà. Oui, évidemment, on ne peut qu'adhérer à cela. Vous dites, et ça m'a vraiment intéressé, vous dites, les personnalités qui n'ont pas de secret, qui sont trop lisibles, trop anticipables, je vous rejoins, sont moins intéressantes et, selon vous, elles sont dénuées de profondeur. Alors, j'ai vraiment réfléchi à ce que vous écrivez. Parce que, en même temps, il y a des comportements, par exemple, Victor Debidour disait de Simone Veil qu'elle aspire à n'être qu'un lieu de passage pour la lumière, de transparence, comme une vitre sur laquelle tout ce qui arrête l'œil, tout ce qui se voit est un défaut. Alors, je me dis, effectivement, il faut... on a un jardin secret. En même temps, une forme de transparence, je dirais presque de loyauté, me paraît pas mal.
Alors, vous avez...
Je mélange plusieurs choses, là.
Vous avez mis la barre un peu haut. Mais si on prend l'exemple de Simone Veil. Simone Veil, j'allais dire... Qui peut imaginer qu'une philosophe de haut niveau va devenir ouvrière d'usine? En ce sens-là, elle n'est pas transparente. En ce sens-là, sa trajectoire existentielle est insolite.
Oui.
Je reprends l'exemple de Simone Veil qui me va très bien sur la question.
J'aurais dû en prendre un autre.
Sur la question de la transparence.
Oui.
Simone Veil est d'origine juive et va épouser, j'allais dire, les valeurs de la chrétienté avec enthousiasme. Et là aussi, sa trajectoire, elle se gauchit, elle s'infléchit. Donc, elle n'est pas transparente. Même si, dans son désir d'ascèse et d'une certaine manière de pureté, on va vers la transparence, bien des éléments de sa vie montrent que la trajectoire n'est en rien transparente.
Mais alors, est-ce que ça signifie pas quand
lisible.
Même oui, voilà, qu'il y a une harmonie intérieure?
C'est une harmonie construite, en d'autres termes.
Oui, mais qui existe.
Ah non, mais je vous l'accorde bien volontiers. En d'autres termes, si on prend cet exemple de Simone Veil, c'est presque l'antithèse de la transparence. C'est-à-dire que la transparence est l'arrivée d'un travail intérieur où il y a beaucoup d'harmonie et de réflexion, qui amène, au travers d'un cheminement, à cette place et à cet état. Mais imaginons que dès le début, on ait su que Simone Veil serait ainsi. Ça, c'est beaucoup moins intéressant.
Oui. professeur Schmidt, là, je vais prendre un temps pour réfléchir et en même temps, nous allons écouter encore Barbara. Et là, elle ne parle plus. Alors, pour nos auditeurs, on peut dire que l'aigle noir, symboliquement, ça se rapporte à l'inceste qu'elle a connu, un problème d'inceste dans sa famille. Et là, la seconde chanson dont j'ai oublié le titre, mais que je vais vite donner, Mon enfance, il s'agit de la période où elle était cachée. Justement, elle était juive et elle s'est cachée, je crois, dans le sud-ouest d'ailleurs, il me semble. Voilà, nous l'écoutons.
J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant, comme au passé. J'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffer sous mes pas, les voix du passé qui nous hantent, et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre, et c'était les mêmes odeurs, j'ai laissé couler mes pleurs, mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout remontant de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme un source clair. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits tout, j'ai tout retrouvé, hélas. La guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Oh mes printemps, oh mes soleils, oh mes pâles aux années perdues, oh mes 15 ans, oh mes mères réveillées. J'ai marre d'être revenu. Oh, les noix fraîches de septembre et l'odeur des murs écrasés. C'est fou tout, j'ai tout retrouvé. Hélas. Il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous m'adorez chérie. Oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je reste seule avec ma détresse, hélas. Pourquoi suis-je donc revenue, seule au détour de ces rues? J'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Suis-je venu ici où mon passé me crucifie, où dort à jamais mon enfant?
Parole d'auteur Monique Fauché.
Voilà, nous retrouvons Laurent Schmidt, professeur Schmidt, qui a écrit un ouvrage intitulé « Le secret », paru aux éditions Odiljapoukob. On a parlé de Simone Veil, on parlait de la transparence, et moi ce thème m'intéressait beaucoup, parce que, évidemment, la transparence... C'est dangereux aussi de dire il faut être transparent pour tout, ça devient le procureur de la bienséance. Qu'est-ce que vous pensez? Vous dites ce qui est transparent ne se voit pas. C'est vous qui le dites.
Alors ça, c'est au niveau individuel, humain. En d'autres termes, les individus trop transparents, trop lisses, eh bien, ils sont invisibles par définition. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les aspérités les éléments mystérieux, tout ce qui fait le charme d'une personne. Une personne, si j'allais dire, on peut la démonter comme un robot,
oui,
et qu'on en connaisse toutes les pièces intérieures, voire même la reconstruire, eh bien, le meilleur des mondes de Huxley est là.
Oui, mais inversement, quelqu'un qui est plein d'ambiguïté, moi, me mettra mal à l'aise.
Alors, ça ne veut pas dire qu'il est absolument secret. Il y a des individus, certes, ambigus, dont on a l'impression qu'ils jouent sur plusieurs claviers, mais quand même, ils interrogent bien plus que ceux qui sont intégralement transparents. Et dans le phénomène de séduction dont je parlais, dont je parle dans le livre, ben quand même, Greta Garbo, elle attire plus, comment dire, on s'interroge beaucoup plus sur elle qu'une starlette dénudée.
Oui, c'est vrai. Moi, ce qui me gêne dans la transparence, chez les êtres transparents, c'est quand ils divulguent les secrets des autres.
Alors ça n'est plus de la transparence.
Eh non.
Je veux dire, parce qu'on parle de soi quand on parle de transparence. Après, tout ce qui est de l'ordre de la révélation, du coming out, ou que sais-je, de la délation, c'est encore un autre sujet. La transparence, elle a son rôle, je l'ai déjà dit, dans tout ce qui est la morale financière, industrielle, écologique, parce qu'il est important qu'on sache les choses.
Médical aussi.
Oui, médical, mais avec...
Non, je pense aux médicaments, pardon.
Alors, médical, j'allais dire oui, mais avec des nuances. Médicaments, eh bien, on est dans un aspect où la transparence doit être absolue. Se retrouver, par exemple, avec des médicaments dont on a autorisé la mise sur le marché et on découvre qu'ils provoquent des difficultés dans l'embryogenèse ou la fœtogenèse, que ces difficultés, certes, on les connaissait, mais on n'a pas été vraiment transparent, c'est dramatique.
Bien sûr. Vous dites que ce qui nous porte, nous protège, nous rend plus forts. Les secrets qui nous portent, qui nous protègent. Il y a des secrets qui nous protègent. Ça, je le comprends. Nous rendent plus forts. C'est-à-dire que c'est une manière de se mettre à l'abri ?
Alors, il y a deux idées dans le « nous rendre plus fort ». Le premier, bien sûr, c'est ce qu'on disait, l'abri, mais aussi le fait de savoir décrypter que certains de nos comportements, de nos attitudes, sont liés à des événements qui nous paraissaient, qui n'étaient pas accessibles à notre conscience, une sorte de prise de conscience, eh bien, ça nous rend plus forts. C'est-à-dire que ça nous permet d'échapper à des actes stéréotypés, peu pensés, tout simplement parce qu'on en comprend la genèse et le mécanisme.
Ça signifie qu'il faut avoir une sorte de lucidité sur soi-même, un savoir sur soi. Je crois que c'est à vous que j'ai emprunté cette expression. C'est ça, quand même.
Alors, ce savoir sur soi, nous ne sommes pas tous égaux là-dessus. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Hein. Donc, il y a des gens qui ont une capacité à comprendre leurs actions, leurs émotions, et d'autres pour qui c'est une zone un peu aveugle, et d'autres qui acceptent d'être guidés dans ce tunnel un peu obscur par une psychothérapie qui leur permet d'accéder à une compréhension de certains éléments qui, sinon, restent dans l'obscurité.
Alors, terminer, il y a quelque chose dont j'aimerais beaucoup parler. Vous parlez de la capacité d'émerveillement. Et ça, j'y tiens beaucoup. J'y crois de plus en plus. Peut-être est-ce l'âge qui fait que. Vous parlez, alors, à la page 224, c'est tout à fait à la fin de votre ouvrage que vous en parlez. Si vous permettez, un des ouvrages les plus aboutis sur la capacité d'émerveillement est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Ce conte moral s'intéresse aux aspects relationnels, à l'amitié, aux différentes façons d'être ensemble. Le poète Rilke l'exprime de façon similaire. Fait seigneur fait que le temps de son enfance ressuscite dans son cœur, ouvre-lui de nouveau le monde des merveilles, de ses premières années pleines de pressentiments. Cette capacité de s'émerveiller, dites-vous, ne nous rend plus esclaves d'une pensée rationnelle, objective et réaliste, mais introduit du rêve et de l'imaginaire dans notre quotidien. La capacité d'émerveillement a des liens forts avec un autre secret nécessaire qui est le fantasme d'éternité. Oui, du rêve, de l'imaginaire dans notre quotidien déjà, on en a sans doute besoin.
Alors moi je crois qu'on en a énormément besoin, qu'il y a une sorte de pragmatisme impitoyable des sociétés occidentales qui fait que ce qui est concret, réel, solide, semble beaucoup plus important que ce qui est de l'ordre de la rêverie, de la créativité et de l'imaginaire. Or, ce qui meut l'être humain, ce qui le fait avancer, c'est sa capacité à imaginer.
Et cet autre secret nécessaire qu'est le fantasme d'éternité ?
Eh bien, je suis très heureux, Monique Fauché, que vous me posiez cette question. Finalement, il y a deux manières d'appréhender la vie. Il y a ce qu'on appelle le fantasme d'infini, qu'on pourrait décrire comme Waterloo, morne pleine. C'est tout pareil, tout est identique, mais à quoi ça sert la vie ? C'est le métro, boulot, dodo. Ça, c'est le fantasme d'infini. Donc, une plaine infinie.
Et morne.
Et morne, qui se déroule sous vos yeux. Et puis, il y a la capacité qu'on peut avoir et qu'on peut créer de se dire, mais il y a des moments extraordinaires dans notre vie, des moments d'émerveillement, des moments où, alors le coup de foudre, c'est un moment d'émerveillement, la découverte d'une œuvre d'art ou d'un paysage, c'est un moment d'émerveillement, un moment de tendresse ou d'humanité entre deux personnes, c'est un moment d'émerveillement, voir des gens soudain faire la chaîne pour s'aider les uns les autres, ce sont des fantasmes d'éternité, donc ces petits flashs, je ne sais pas comment on pourrait dire, illuminations qui donnent à l'existence un sens réel.
Un grand merci pour vos propos et pour votre livre. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de Secret, le secret de Laurent Schmitt aux éditions Odile Jacob. Merci professeur. Au revoir.
Merci beaucoup Monique Fauché.